questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Laissez vos commentaires ou posez vos questions sur la page de la radio, c'est juste en dessous de cet épisode, ou rendez-vous sur la page Facebook de l'association. Alors aujourd'hui, c'est la suite d'une nouvelle série d'émissions. On parle des symptômes de la maladie d'Alzheimer et il y en a plusieurs. Ce troisième épisode est consacré aux troubles des fonctions exécutives. Notre invitée pour cette série d'émissions, c'est Judith Mollard-Palacios, la psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith, ravie de vous recevoir une nouvelle fois.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous.
Alors avant toute chose Judith, que désignent les fonctions exécutives ?
Alors les fonctions exécutives nous servent à réaliser des tâches complexes ou des tâches nouvelles et elles sont indispensables voilà, à notre organisation, à notre vie et elles intègrent donc plusieurs compétences, celle de pouvoir se concentrer par exemple, celle de pouvoir planifier, raisonner et s'adapter à une nouvelle situation. Donc ces fonctions exécutives sont souvent assez tôt altérées dans la maladie d'Alzheimer et vont avoir une répercussion bien entendu sur la vie quotidienne de la personne. Je vous parlerai d'abord de la concentration, de la capacité à se concentrer, donc qui est une capacité qui s'acquiert au fur et à mesure de l'enfance. Et c'est cette capacité donc à prêter attention à une tâche et à faire abstraction de stimulation qui ne serait pas nécessaire à la réalisation de cette tâche. On voit bien donc que cette capacité à se concentrer, elle va petit à petit être altérée dans la maladie. La personne va avoir de plus en plus de difficultés, par exemple, à réaliser deux tâches simultanément, à faire deux choses en même temps, sa capacité en attention divisée va décliner et il faudra être attentif dans la prise en charge à ne lui proposer que des situations en tâches simples. Par exemple, de plus en plus, elle va avoir du mal bien à faire cuisiner quelque chose et en même temps être sollicitée par une conversation à côté. Elle va avoir du mal à repasser en écoutant la radio. Enfin, toutes ces situations en double tâche vont lui être difficiles et puis, avec l'évolution de la maladie, elle va avoir aussi de plus en plus de difficultés à faire abstraction donc des stimulations extérieures. Par exemple, elle peut être en train de manger à table et si une voiture passe dans la rue, elle peut être attirée par cette nouvelle information qui lui arrive et quitter son activité principale qui était de manger pour aller regarder ce que c'est que cette voiture qui passe dans la rue. Donc, ça va entraîner un certain nombre de situations auxquelles il va être difficile de répondre. Et puis, donc, la capacité à planifier, à organiser son temps, alors, en lien aussi avec les problèmes de mémoire, vont avoir un effet assez immédiat. Donc, dans l'altération de ces fonctions exécutives, elle va aussi de plus en plus avoir du mal à gérer des tâches complexes comme la gestion du budget, comme remplir sa déclaration d'impôt, comme organiser, planifier une réunion de famille, organiser, planifier un voyage. Enfin, tout ça va être assez rapidement beaucoup plus difficile pour elle.
Alors, au bout de combien de temps ces troubles se manifestent-ils ? Est-ce que c'est après, par exemple, la mémoire et le langage ou pas forcément ?
C'est d'apparition assez précoce, ces difficultés-là, puisque ça concerne des fonctionnements complexes de l'appareil cognitif. Donc, c'est des choses qui surviennent assez tôt. Peut-être même qu'on peut percevoir l'abandon de certaines tâches comme le budget, comme les impôts, comme avant que les troubles de la mémoire soient vraiment très visibles. Donc c'est présent très tôt.
Est-ce que la personne malade se rend compte qu'elle perd la maîtrise de ses fonctions, en tout cas dans les débuts ?
Oui, bien sûr, elle va se perdre de plus en plus dans ses tâches complexes, ne plus savoir s'y retrouver, avoir de plus en plus besoin de l'aide d'un tiers, mais parfois qu'elle ne demande pas, et parfois aussi donc se retrouver dans des situations où qui vont avoir des répercussions, hein, si la déclaration d'impôt n'est pas envoyée à temps, si la gestion du budget fait qu'elle dépense, hein, des sommes trop inconsidérées. Enfin, ça peut entraîner, hein, des situations d'angoisse, de sentiment de perdre le contrôle.
Est-ce que ça l'empêche de vivre correctement ?
Oui, oui, bien sûr, puisque ça va entraîner une perte d'autonomie. Elle va avoir besoin, hein, que des tiers eh bien se préoccupent, hein, de ses affaires, on va dire, hein, et ça, c'est pas toujours bien vécu, bien évidemment, parce que ça participe, hein, de notre intime et qu'on n'a pas forcément envie que alors quand il s'agit du conjoint, c'est peut-être un peu différent, mais quand il s'agit de ses enfants, on n'a pas forcément envie que ses enfants viennent se mêler, hein, de ses affaires administratives, de ses affaires voilà, au quotidien.
Alors il y a aussi l'aidant, le proche qui est là de façon quotidienne auprès, eh bien, de la personne malade. Est-ce que ces troubles, il y a des conseils peut-être à donner pour y faire face ?
Oui, par rapport à ce qu'on a pu évoquer, hein, des troubles de la concentration, de l'attention, il est vraiment important de simplifier, hein, au fur et à mesure les tâches que l'on propose à la personne malade, de ne pas la mettre en situation de double tâche. Quand on veut qu'elle se concentre sur une activité, eh bien, enlever toutes les sources parasites, c'est-à-dire qu'on va éteindre la télévision, on va éteindre la radio. Voilà, on peut aussi, si on est dans une situation où il y a beaucoup de monde, hein, et qu'on veut, par exemple, communiquer avec elle, bah, il est préférable, hein, de s'isoler dans un endroit calme, sans stimulation parasite autour. Il faut vraiment adapter, hein, l'environnement au regard, hein, de ces difficultés. On voit par exemple des personnes malades qui, lors d'une réunion de famille, à peine sont-elles arrivées qu'elles veulent repartir, hein, et souvent l'entourage en est blessé et a le sentiment que la personne est indifférente à ses proches, alors que très certainement le fait qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de conversations, beaucoup de bruit, les enfants qui courent à droite à gauche, ça excède, hein, ses capacités attentionnelles, ses capacités d'analyse de toutes les informations auxquelles elle est soumise. Et dans ces situations-là, eh bien, la fuite, hein, l'évitement et la réponse, hein, qu'apporte la personne malade. Elle a envie de partir, elle a envie de s'enfuir de cette situation trop stimulée. Et nous, on connaît ça, par exemple, quand on va faire ces courses de Noël au dernier moment dans les grands magasins, ce sentiment qu'il y a trop d'informations. Et c'est très désagréable et on n'a qu'une envie, c'est d'en partir. Donc là, c'est un peu la même chose, mais avec des situations avec beaucoup moins de stimulus. Hein. Donc, il faut privilégier quand on rencontre les amis, la famille, plutôt en petits groupes, hein, peu de personnes à la fois. Pareil pour les petits-enfants. Les enfants produisent beaucoup, hein, de stimulation. Et donc, bah, peut-être qu'à un moment donné, il sera préférable d'accueillir un petit-enfant à la fois plutôt que tous les petits-enfants en même temps. Enfin, c'est vraiment réduire progressivement le contexte, hein, en tenant compte de toutes ces difficultés. Hein. La même chose si vous servez le repas à une personne alors que la télé est allumée, elle va être captivée par la télévision et ne va pas traiter l'information qui est de prendre son repas. Et vous aurez beau lui dire, hein, mange, hein, eh bien elle va être sur la stimulation la plus importante. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'éteindre, hein, la télévision et de réduire les stimuli.
Et puis dernière question, Judith, on parle souvent de l'autonomie dans la maladie d'Alzheimer parce que c'est souvent l'idée qu'on s'en fait. Est-ce que ces troubles-là ont un impact véritable sur l'autonomie de la personne ou est-ce, entre guillemets, secondaire ?
Tout a un impact sur l'autonomie de la personne, bien évidemment. Hein. Ces difficultés vont faire qu'elle ne va plus pouvoir gérer un certain nombre de choses qu'elle ne va plus pouvoir planifier, organiser son agenda, et qu'il va falloir que d'autres le fassent à sa place. Et évidemment, pas toujours facile à vivre, pas toujours facile à accepter. Et c'est là où il faut le plus possible négocier et associer la personne à tout ce qui est organisé à son profit, mais auquel elle participe moins, évidemment, qu'elle ne le faisait.
Merci beaucoup, Judith Mollard-Palacios, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 consacré aux difficultés à réaliser des séquences de gestes. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez à tout moment réagir et poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association. On se fera un plaisir de lire vos réactions. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous. Et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.